Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes chers amis, je continue sur le mariage, puisque plusieurs d'entre vous me l'ont demandé. Et nous allons voir aujourd'hui les vertus qui sont nécessaires dans le mariage. Certains pensent que la pauvreté, la chasteté, l'obéissance sont des vertus pour les religieux et non pas des vertus pour les gens mariés. Si l'on a affaire à un garçon, pauvreté, il a bien l'intention d'être riche, et la jeune fille d'épouser un garçon riche. Chasteté, on ne se marie pas pour cela. Quant à l'obéissance, le mari sera le chef et donc il n'a pas l'intention d'obéir. Et la femme peut être tenue à l'obéissance, mais de nos jours, c'est probablement une des dernières choses auxquelles les jeunes filles pensent. Je parle des jeunes filles du monde. Et on arrive à cette constatation terrible que beaucoup de jeunes se disent « La pauvreté, la chasteté et l'obéissance, cela c'est pour la vie religieuse et donc pour la vie de perfection. Et si je ne suis pas appelé à la pauvreté, à la chasteté, à l'obéissance, alors, c'est que je ne suis pas appelé à la perfection, mais à la médiocrité. Et alors, on s'appuie sur l'affirmation de saint Thomas d'Aquin que le mariage est une voie commune. Le pauvre saint Thomas doit se retourner dans sa tombe en entendant ce qu'on lui fait dire. J'expliquais cela à une réunion de pères de famille et l'un d'eux me dit « Monsieur l'abbé, ce que vous venez d'expliquer, c'est ce que j'ai dit à ma fille. » « Oh, très bien, monsieur, je vous félicite d'avoir compris ces choses-là et de les avoir expliquées. » « Non, non, monsieur l'abbé, vous n'y êtes pas du tout. J'ai dit à ma fille très exactement « Puisque tu n'es pas appelé à la pauvreté, à la chasteté, à l'obéissance, alors tu es appelé à la médiocrité. Et la première conséquence, c'est que tu vas t'acheter une télévision. » Je voudrais, mes chers amis, vous mettre en garde contre une telle manière de voir qui est absolument à l'opposé de la vie chrétienne. Il est dommage que nous n'ayons pas un tableau pour écrire dessus, mais vous allez imaginer les choses. Commençons par la pauvreté. La pauvreté d'un père de famille. Nous allons prendre une famille de 3 enfants, si vous le voulez bien. Vous avez déjà au minimum 600 euros pour vous loger, et encore, je suis bon. C'est plutôt 800 euros, et il ne faut pas habiter Paris. Vous avez chaque mois l'abonnement à Internet, 39,99 €. Si vous êtes à la campagne, en ville, c'est moins cher. Mais en ville, les logements sont plus chers. Vous avez la voiture. La voiture, c'est 300 euros par mois minimum. Minimum. 3 600 € par an, on est même loin du compte. Vous avez l'amortissement, parce que quand même, avec 3 enfants, il ne vous faut pas une petite voiture. Je ne parle pas de la tradie mobile, qui, elle, effectivement, coûte nettement plus cher. Vous avez l'amortissement, vous avez les frais de déplacement. Bien. Vous avez la nourriture. Demandez à vos parents combien ça coûte par personne et par jour. Il me paraît difficile de se nourrir pour moins de 7 € par personne et par jour, ça fait quand même 35 € par jour, ça vous fait 1 000 € par mois. J'exagère peut-être un petit peu, les mamans diront que je ne connais pas bien le prix du kilo de carottes, ce n'est pas grave. Vous avez très souvent la mutuelle d'assurance, vous avez l'assurance habitation, vous avez la taxe d'habitation, il paraît qu'elle va disparaître. Bon. Si vous faites le compte, vous arrivez très vite à plus de 2 000 €. Vous allez me dire que les allocations familiales vont vous aider à boucher le trou. Si vous avez 3 enfants, vous n'aurez que des queues de cerises en allocation familiale. Ceci quand les enfants sont petits. Je ne vais pas compter les paquets de couches et choses comme ça, ni la lessive. Quand les enfants sont grands, il faut les mettre en classe. Autrefois, ma démonstration était facilitée par le fait qu'on les mettait dans des bonnes écoles, tous les enfants. Maintenant, vous savez, je pense qu'effectivement, il y a encore des écoles moins mauvaises que d'autres. Et surtout dans le primaire, ça compte. Enfin, si vous les mettez à l'école, je ne connais pas une école primaire, même si on n'est pas pensionnaire, même si on est externe, je ne connais pas une école primaire à moins de 150 € par mois par enfant. Donc, 450 €. Inutile de vous dire que les allocations familiales sont bien mangées par cela. Vous voyez donc, messieurs, mes jeunes amis, hein, garçons, vous voyez donc vos petites fantaisies, bon, maintenant, les photos, ça coûte rien. Autrefois, il fallait acheter les pellicules. Pellicules, développement, tirage, on hésitait à faire plus de 2-3 films dans les vacances. Maintenant, c'est quasi gratuit. Enfin, il faut quand même se payer les choses. Puis, il y a d'autres fantaisies hein, que les appareils photo. Il ne va pas vous rester beaucoup de place pour les fantaisies, surtout si vous voulez mettre un petit peu d'argent de côté, ce qui a toujours été les recommandations traditionnelles dans les livres sur le conseil aux futurs époux, mettre de l'argent de côté parce que la vieille voiture peut vous casser dans les mains plus tôt que vous ne le pensez, parce qu'il peut y avoir des imprévus, parce que etc., etc. Je n'ai évidemment pas parlé des vacances, peut-être que vous pouvez aller chez les grands-parents, ce n'est pas certain. Enfin, même chez les grands-parents, il est normal quand même d'apporter sa quote-part. Bref, les dépenses risquent fort d'être supérieures aux entrées. Maintenant, prenons la pauvreté chez un religieux. Alors, du côté des dépenses, vous mettez à peu près la même chose que pour une famille. Vous mettez la soutane, il n'y en a pas une par mois. Bon, enfin, il en faut pas loin d'une par an, c'est quand même 500 € si elle est de bonne qualité. Vous avez les chaussures, vous avez la nourriture, vous avez le permis de conduire, le fameux permis de conduire. Et quand on reçoit des jeunes, papa paye, hein, monsieur l'abbé paye le permis de conduire. Bien. Heureux quand on ne rate pas le premier coup ni le deuxième. Vous pouvez faire toute la liste des dépenses que vous voulez. Et du côté des entrées, vous mettez 0, 0, 0, 0. Qui paye? C'est papa, c'est monsieur le supérieur, c'est le prieur. Qui a le plus de soucis du côté de la pauvreté? Le père de famille ou le religieux? À qui faut-il plus de sacrifices par rapport à la pauvreté? Au père de famille ou au religieux? Vous allez me dire que le religieux doit vivre dans le sacrifice et avoir l'esprit de sacrifice. Oui, oui, tout à fait d'accord. Mais cela vient de son offrande à Dieu. Les époux aussi sont offerts à Dieu. Je vous ai parlé de la mission des époux. Donc ici, un partout, balle au centre. Je parle du côté d'un père de famille qui ne serait pas préparé à vivre dans une certaine pauvreté, les choses vont lui être dures et difficiles. S'il aime bien ses enfants, sa famille, sa femme, il acceptera le sacrifice sans difficulté. Enfin, il y aura un sacrifice. Pauvreté, chasteté maintenant. Alors chasteté, je vais parler un mot quand même un petit peu couvert. J'ai connu un garçon, 24 ans, oui. Il a épousé une jeune fille de 18 ans. Il est allé la chercher le lendemain du bac. À 19 ans, premier enfant. À 20 ans, deuxième enfant. À 21 ans, troisième enfant. À 23 ans, 4 ans, je ne sais plus, quatrième enfant. Alors elle lui a dit, tu vas te calmer un petit peu. À ce moment-là, le jeune mari m'écrit, parce qu'il me connaissait bien, et je lui ai répondu, je ne sais pas si vous faites oraison comme je vous l'ai si souvent recommandé, en tout cas c'est un fait certain, c'est que, effectivement, il faut un peu vous calmer, et que vous ne pourrez tenir que si vous faites oraison, et votre femme verra que vous l'aimez vraiment si vous faites oraison avec elle, et si elle fait oraison avec vous. Alors on reprend, on est à 4 enfants à 23 ans, on attend un petit peu, mais enfin, on attend un an, ça va bien, on attend 2 ans, 2 ans, c'est 15 mois de chasteté, si je ne me trompe pas. 15 mois de chasteté, 15 mois ceinture. La jeune fille est toujours belle, elle est toujours jeune, elle est toujours jolie, et elle est toujours à côté de vous. La jeune femme, je veux dire. À 25 ans, le cinquième enfant, à 26 ans, le sixième enfant. Vous allez me dire que j'exagère. Non, il y a des femmes qui ont excellente santé. Et puis, on arrive à 40 ans, la femme a 40 ans, elle a 12 enfants, si vous voulez. On peut toujours continuer. La nature ralentit les choses. Enfin, quand même, j'ai connu une femme de 48 ans qui avait donné naissance à un enfant. C'était son premier. Elle s'était mariée sur le tard. Bref, vous voyez que la chasteté ne va pas se présenter comme vous l'attendez. En plus, il faut supposer que votre épouse ne sera jamais de mauvaise humeur, parce que vous, jeune homme, vous ne l'êtes jamais, c'est bien entendu. Le jour où elle est de mauvaise humeur, elle vous tourne le dos, et puis vous la respectez quand même trop pour l'obliger. Il faut supposer qu'elle ne soit pas malade. J'ai eu 2 fois le cas suivant, le médecin convoque le mari et lui dit « Voilà, monsieur, j'ai sauvé votre femme de justesse. J'en dis pas trop. Et je vous avertis qu'à la prochaine grossesse, c'est l'hémorragie interne assurée. Nous ne la sauverons pas. » Alors maintenant, vous voyez, monsieur, vous avez ce que vous avez à faire. Un des pères de famille me téléphone. « Monsieur l'abbé, voilà la situation. Qu'est-ce que je fais ?» Et il me précise, il n'est pas question, monsieur l'abbé, que vous me demandiez la chasteté. Alors je lui ai répondu, eh bien, achetez le cercueil. Monseigneur Lefebvre disait que le mariage est une école de chasteté. Au début du mariage, tout beau, tout nouveau, saint Thomas d'Aquin dit qu'il y a peut-être un petit peu, appelons ça de la gourmandise, si vous voulez. Mais le mariage couvre cela. Il y a l'élan, l'entrain, la famille qui vient, le bilan final est tout à fait positif. Enfin, petit à petit, comme je viens de vous le dire, les époux découvrent qu'on ne peut pas faire tout ce qu'on veut. Vous imaginez, messieurs, le jeune homme qui n'est pas préparé à ce que je vous ai dit, qui n'a pas fait très attention à la chasteté dans sa jeunesse, et qui croit que ces difficultés vont se résoudre justement dans le mariage. Il il ne peut pas, il ne veut pas se retenir et il pense qu'il aura un exutoire tout trouvé. Vous imaginez déjà quelle forme d'amour c'est que de traiter sa femme en exutoire. Elle est sensible, elle va tout de suite le voir. Et puis, dans les périodes de chasteté dont je vous ai parlé, qu'allez-vous faire ? J'ai connu un mari qui avait fait des bêtises pendant la chasteté, où il restait à la maison. Sa femme a découvert ça, elle n'était pas traditionnaliste. Elle était convertie, enfin convertie, disons qu'elle avait accepté de le suivre. Alors elle a dit, ah c'est ça les tradis, des beaux hypocrites, oui. Elle est partie. Si vous n'êtes pas chaste dans la jeunesse, mes chers amis, vous courez les plus grands dangers pendant le mariage. Et si vous ne partez pas dans le mariage avec un esprit de chasteté, vous courrez les plus grands dangers pendant le mariage. Parce que la chasteté, à un moment ou à un autre, au moins un moment ou à un autre, la Providence vous la demandera et vous ne pourrez pas tricher. Passons au religieux maintenant. Je vous ai dit, dès le début, il fait ceinture. Qu'il ait été sage avant ou qu'il n'ait pas été sage, en tout cas, il est entré dans la vie religieuse pour être sage et pour aimer le bon Dieu et pour l'observer. Il fait ceinture et puis, quand on arrête de mettre du bois dans le feu s'éteint. Tandis que dans la vie conjugale, on passe son temps à mettre du bois dans le feu, ça chauffe, ça fait plaisir, et puis, peu après, il faut se reculer et se mettre au froid. Pour qui est-ce le plus facile ? Pour les époux ou pour les religieux ? Vous allez me dire, nous allons au moins nous rattraper sur l'obéissance. Et surtout si je parle à des garçons, des mâles, des hommes, virils. Enfin, j'espère, n'est-ce pas ? J'espère que vous serez virils. Et que vous saurez ce que vous voulez. Je vous en parlerai une autre fois à propos des fiançailles. Mettre les choses au point avec la future épouse pour qu'il n'y ait pas de surprise après. Donc on suppose que vous avez mis les choses au point, vous êtes le chef reconnu, incontesté. C'est amusant d'ailleurs parce que vous voulez une femme qui soit bien soumise. Mais vous vous épousez facilement des femmes, disons que vous avez la tentation d'épouser une femme qui ne soit pas coincée. Alors il faut choisir. Il y avait une mère de famille qui m'avait téléphoné. Oui, j'en suis à 20 minutes. Comme je sais que vous m'écoutez et puis que vous me l'avez demandé. Il y avait une mère de famille qui m'avait téléphoné. Monsieur l'abbé, vous ne pourriez pas faire en sorte que mon fils cesse d'écouter la musique de rock. Ah bon, madame ? Mais je croyais que c'était vous qui lui faisiez écouter. Comment, monsieur l'abbé, pouvez-vous croire cela ? Ce n'est pas possible. Oh, non, je me suis trompé. Je croyais que vous aviez organisé des soirées pour votre fils. Oh, ça c'est normal. Oui, lui dis-je, c'est normal, effectivement. À 18 ans, il faut qu'il songe en mariage. Mais c'est ça, monsieur l'abbé, vous avez compris. Bon, d'habitude, on mariait les filles, maintenant on marie les fils. Et je dis, oui, bien sûr, il faut songer à l'avenir. Oui, oui, vous m'avez compris, monsieur l'abbé, elle était rassérénée. Et je lui dis, mais c'est une évidence que le bal, appelons ça un bal, n'est-ce pas, la danse, est le meilleur endroit pour choisir une épouse. Et que les meilleures danseuses feront les meilleures épouses et les meilleures mères de famille. Et puis que les jeunes filles qui font tapisserie, hein, c'est comme ça qu'on dit, on les méprise quand on est jeune, et pourtant. Alors là, je ne savais plus quoi me répondre. Un jeune m'a dit la même chose. Il participait à des soirées parce que ça met en valeur la fille. Qui ça met en valeur, une épouse ou une danseuse ? voilà, vous serez des chefs. Alors vous avez l'impression que, parce que vous serez les chefs, vous ferez ce que vous voudrez. Mais je vais vous lire saint Augustin. La cité de Dieu, 19-14. Dans la maison du chrétien qui vit de la foi et qui est encore un pèlerin en marche vers la cité céleste, ceux qui commandent sont en réalité les serviteurs de ceux à qui on les voit donner des ordres. Ceux qui commandent sont les serviteurs. Car ils commandent non pas par envie de dominer, mais pour conseiller. Non par orgueil qui veut prévaloir, mais par la miséricorde qui veut pourvoir. Alors évidemment, c'est facile. Les gens de l'extérieur disent « Oh, il a l'autorité, il a de la chance, n'est-ce pas ?» Mais votre femme obéira à son mari, qu'elle voit. Vous, vous obéirez à Dieu que vous ne voyez pas. Votre femme, vous lui direz ce que vous voulez, elle l'entendra. Le bon Dieu vous dit ce qu'il veut, mais vous ne l'entendez pas de vos oreilles, je veux dire. Vous l'entendez dans la belle vertu de prudence, je vous en parlerai une autre fois. L'intelligence des choses de Dieu, le sens de la foi, si vous voulez, le goût des choses de Dieu. Votre autorité aura deux limites. La première, c'est que vous serez au service de ceux auxquels vous commandez. Vous aurez un enfant qui n'est pas doué dans les études, il faudra faire le sacrifice de l'envoyer dans une école spécialisée, de payer fort cher. Vous voudrez que votre fils prenne votre suite dans le métier. Hélas, maintenant, ça ne se présente plus beaucoup. Je veux dire des métiers dans lesquels on peut faire succéder le fils. Et puis, votre fils partira dans une autre voie et qui sera raisonnable et qu'il faudra, il faudra le soutenir. Quoi qu'il arrive, vous serez au service de la vertu, de la sainteté de vos enfants. Alors, dites-moi un petit peu, entre vous et le religieux, une fois, au Moulin du Pin, nous préparions une grande fête au mois de juillet, comme d'habitude. J'étais à discuter avec mon père, j'en profitais, je ne le voyais pas souvent. Puis un frère vient nous voir, monsieur l'abbé, pour ceci, je m'y prends comme ci ou comme ça. Je réfléchis, je lui dis, comme ceci. 5 minutes après, un autre frère vient, monsieur l'abbé, alors je vous demande la permission, parce qu'il y a ça à faire, est-ce que je peux ? Oui, vous pouvez. Très bien, monsieur l'abbé. Et je crois qu'il me proposait, aussi une alternative. Que dois-je faire ? Vous faites comme ça. Très bien, monsieur l'abbé. Quand le deuxième est parti, mon père me dit, dis-donc, t'as de la chance, hein ? Alors je lui dis, papa, qui a le plus de chance ? Eux ou moi ? Et il me répond, oui, tu as raison, c'est eux. S'il était si facile que cela de commander, tout le monde commanderait. Il n'y aurait pas de problème. On constate qu'il est difficile de commander, puisque peu commandent. Qui a le plus de chance ? Le père de famille qui commande, mais qui en réalité ne fait que transmettre les ordres de Dieu, et qui doit avoir suffisamment de vertu pour être crédible auprès de ses enfants, qui eux n'ont pas entendu le bon Dieu ? Ou bien le religieux qui obéit et qui est soulagé. Alors mes chers amis, faisons le bilan. Des deux côtés, il faut le sacrifice. Mais d'un côté, le sacrifice est difficile, car il faut perpétuellement vaincre des difficultés. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Madame Lefebvre, la mère de Monseigneur, dans une lettre à l'une de ses filles. Vous pouvez me demander le livre si vous voulez, je vous le fournirai. D'un côté, c'est le sacrifice avec des obstacles à vaincre perpétuellement, De l'autre côté, c'est le sacrifice avec une voie aplanie pour le faciliter. Des deux côtés, le sacrifice. Un côté difficile, j'ai pas dit pénible, hein. J'ai pas dit pénible, mais difficile, et un côté facile. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.